Bonjour, on va faire un deuxième exercice de mécanique de structure. Je dessine la structure au tableau. Voilà, je mets des lettres. 1, B, C, D, E, H, et des côtes. Nous allons d'abord procéder à la vérification de la structure pour valider s'il s'agit effectivement d'une structure isostatique par rapport à laquelle on pourra procéder avec les méthodes qu'on est en train d'étudier. Et ensuite, on va faire l'exercice après avoir placé un certain système de forces sur la structure. Alors, vous voyez, la structure se compose de quatre poutres ou corps, ensemble de corps rigides. Le numéro 1 qui est ici. Le numéro 2 qui se compose de ces systèmes en T, le numéro 3, une simple bielle, et le numéro 4. Nous avons 4 poutres, donc le nombre de degrés de liberté total est égal à 12. Si on contrôle le nombre de degrés de blocage introduit par les liaisons antérieures, nous avons 2 degrés de blocage introduits par la liaison glissière en H, 2 et 2, donc nous avons le nombre de blocages antérieurs qui vaut 6. Et au niveau des blocages extérieurs, nous en avons 2 introduits par la rotule A, 2 par la rotule B et 2 par la glissière C. Et donc E égale aussi à 6. Du coup, la différence entre degré de liberté et degré de blocage est de 0, ce qui montre que la structure, ou plutôt les systèmes, est un candidat pour être une structure isostatique. Il faut encore vérifier qu'aucun mouvement ne soit possible pour les systèmes en question pour pouvoir en déduire qu'il s'agit effectivement d'une structure isostatique. Alors, le calcul de l'identification de la position des centres de rotation va nous permettre de donner la réponse. On constate que pour ce qui est de la poutre numéro 1, le centre de rotation doit se trouver nécessairement en correspondance de la rotule A, s'il existe. On constate que le centre de rotation relative entre la poutre 1 et 2 se trouve à l'infini dans la direction horizontale, que le centre de rotation absolu de la poutre 2 doit se trouver, s'il existe, en coïncidence avec la rotule B, le centre de rotation relative entre 2 et 3 au point E, celui entre 3 et 4 au point D et le centre de rotation absolu du point 4 à l'infini de la poutre 4, pardon, à l'infini de la direction verticale comme indiqué par la direction des bielles de la glissière. Donc nous allons vérifier si cet ensemble d'informations est compatible avec l'existence d'un ensemble de centres de rotation pouvant s'activer ou pas, c'est-à-dire si le théorème de Kennedy peut être vérifié pour les points qui manquent à l'appel en ce moment, et notamment les centres de rotation absolu de la poutre numéro 3 qui n'est pas encore identifiée. Alors, on peut constater que le centre de rotation absolu de la poutre numéro 3, pour que le mouvement soit possible par rapport à la poutre numéro 4, doit se trouver à la fois, doit se trouver aligné avec le centre 4, le C4, qui se trouve à l'infini en direction verticale, et le point D. C'est-à-dire qu'il doit se trouver sur la droite verticale menée par le point D. Donc ici, on doit trouver C3 pour que le mouvement soit possible pour ce qui est du groupe 3-4 de la structure. Également, si on regarde la position du centre 3 par rapport à la poutre 2, on constate que ce centre est aligné avec les centres C2 et les centres C2-3, et donc il doit se trouver sous cet axe. Au croisement de ces deux axes, il existe un point qui est candidat pour la position du centre C3. C'est-à-dire que ce point-là serait compatible pour qu'il y ait des mouvements à la fois qui convoquent 3, 4 et 2. Il faut voir si maintenant les mouvements de la poutre 2 sont possibles. Eh bien, pour cela, il faut que les centres de rotation C1, C1, 2 et C2 soient alignés. Eh bien, ceci n'est pas le cas parce que le centre C1 se trouve au point A, le centre CB se trouve au point B qui n'est pas sur la même horizontale et le centre C1-2 de rotation relative se trouve à l'infini de la direction horizontale. Donc la seule possibilité pour que ces trois centres soient alignés, c'est que C1 et C2 se trouvent sur la même horizontale, ce qui n'est pas le cas. Ceci implique qu'aucun mouvement n'est possible pour le corps numéro 2, aucun mouvement n'est possible pour le corps numéro 1, ce qui engendre que le point C2-3 est un point fixe, donc le centre C3 ne peut pas se trouver ici, car il doit se trouver là, et ce qui rend incompatible le reste de la cinématique. C'est donc évident que les mouvements sont impossibles, la structure est isostatique, vu que le calcul du degré de blocage et du degré de liberté a démontré que ceux-ci sont dans un bilan à zéro. On peut, maintenant qu'on sait qu'il s'agit d'une structure isostatique, ajouter des efforts extérieurs, et passer au calcul des diagrammes. On va considérer une charge uniformément distribuée dans la partie E2, ED de la structure. Cette charge a la valeur Q. Et on va tracer les diagrammes du moment pour ce système. Les diagrammes du moment sur une charge uniformément distribuée est une parabole, comme on le sait, parce que c'est en fait l'intégrale seconde de la charge. Et le signe est celui qui est donné par la charge, c'est-à-dire je sais qu'ici, le moment doit avoir une allure de ce type. Je sais qu'il doit passer par D et par E, et je peux donc directement tracer les diagrammes en question. Je sais aussi qu'au travers de E, la dérivée ne pourra pas changer, au travers de D, la dérivée ne pourra pas changer non plus, parce qu'il n'y a pas de force concentrée appliquée à E et D. Et donc, la tangente à la parabole en question, une fois traversée, tant le point E que le point D doit continuer sans se modifier. Je peux donc tracer cette partie du diagramme assez facilement. Il s'agit d'une droite, une parabole et une droite ayant la même pente de l'autre côté. Ok, bon. Quand j'arrive sur le point G, j'ai un point triple, ce qui signifie que le diagramme à droite ici du point G sera équilibré par les diagrammes à gauche et en bas. Donc les trois moments doivent s'équilibrer autour du point G parce qu'il n'y a pas de moment appliqué à ces points. Ce que je peux constater, c'est que le diagramme du moment devra avoir une allure linéaire ici partant par le point A, donc quelque part une allure de ce type, une allure linéaire ici, partant du point B, et que sur la partie dans laquelle se trouve la glissière, puisqu'en ces points-là, l'effort tranchant est nul, et donc les diagrammes du moment en ces points, il a nécessairement une allure horizontale, et qu'il n'y a pas d'autres forces appliquées, et bien sur toute la traverse de cette partie du portique, les diagrammes du moment doivent être constants. Il reste, pour pouvoir tracer les diagrammes dans cette zone, à se rendre compte de deux facteurs. Donc, d'un côté, les diagrammes ici doivent être constants, ce qui signifie que la valeur ici se retrouvera ici à la fin du diagramme. Et de l'autre côté, nous avons le besoin de l'équilibre mutuel au point G dont j'ai parlé. Et un troisième point, un besoin d'équilibre qui apparaît, c'est que les seules forces horizontales en jeu vont être les réactions en A et en B. Ces deux forces doivent donc nécessairement être égales et opposées, ce qui signifie que la pente du diagramme sur la branche verticale de gauche, sur le montant de gauche, doit être égale et opposée à la pente du diagramme sur le montant de droite. Je vais dessiner ces diagrammes d'une manière provisoire, en réfléchissant donc sur le fait que nous devons avoir ici une certaine pente qui conduit donc ici à une valeur, et ici la même pente qui conduit forcément à une valeur différente parce que la longueur sur laquelle la pente est intégrée pour obtenir la valeur finale est inférieure. Donc ici nous avons la valeur finale, si j'appelle V la pente du diagramme, ici je peux avoir une valeur finale que je peux appeler VH, et là j'ai une valeur finale qui s'appelle VB. La valeur VH elle se retourne au niveau de l'angle parce que le moment est continu et continue de manière constante. J'aurais dû la dessiner un peu plus grande, excusez-moi, je vais le refaire. Donc je disais, ici j'ai une certaine pente qui pour l'instant est inconnue, ben, la valeur finale est VH, elle se retourne et vient ici. Là il y a une discontinuité parce que cette différence qui est là doit se retrouver ici malgré les éventuelles imperfections de dessin, cette valeur vaut B. Comme je vous disais, il nous reste à identifier la valeur, par exemple, du moment en C nœud, qu'on a indiqué VH, mais où V est inconnu, ou dans n'importe quel autre nœud. Alors, on peut procéder par un raisonnement qui dérive des informations qu'on a déjà au tableau, c'est-à-dire le fait que, comme on a déjà indiqué par ces valeurs, la pente, ces deux pentes sont égales et opposées. Donc ici, on a la valeur VH et là, on a la valeur VB. Et puis, on doit voir que quand on fait la somme de la valeur qu'on a là par ce diagramme plus la valeur VB qui est ici, on doit avoir exactement la valeur VH. Donc on peut identifier la valeur du diagramme qui est là parce que ceci est le moment maximal sur une structure, sur une poutre des portées D et des charges appliquées Q. Donc ceci vaut Q D carré sur 8. Les efforts tranchants à l'extrémité de la poutre ED valent QD sur 2. Et donc, quand j'intègre ici sous la longueur E, je vais avoir QD E sur 2 pour ce qui est de la valeur du moment ici. Et quand j'intègre sur cette autre longueur, je vais avoir la valeur du moment ici qui vaut QDC sur 2. Il me reste, pour assurer l'équilibre du nœud G, que j'ai effacé, je vais le renommer, donc là, G. Pour assurer l'équilibre du nœud G, je dois écrire que la valeur de VH, qui est cette valeur-là, est donnée par la somme de la valeur Q DC sur 2 plus VB. Ce qui me permet de conclure que V, qui était une inconnue dans mon dessin, vaut Q de C divisé par 2 fois H moins B. Donc, en ayant identifié V, que je peux mettre ici et là, je connais entièrement les diagrammes du moment. Et je peux considérer l'exercice terminé pour ce qui est de sa partie initiale et la plus importante. Il suffit maintenant de calculer les dérivées du diagramme présent pour obtenir les valeurs des efforts tranchants et des efforts normaux par l'équilibre en nœud. Je procède à cette deuxième partie de l'exercice et dans un troisième temps, on va vérifier par un autre calcul qu'effectivement la valeur ici et celle qu'on a calculée, celle qu'on vient de calculer, et que j'écrirai donc à côté. La valeur, on va mettre une lettre, on est arrivé à H, J, donc le moment en J a été calculé, sa valeur c'est Q de CH divisé par 2 fois H moins B. pour dessiner les diagrammes de l'effort tranchant, je vais me servir d'une autre couleur sur la même, sur le même graphique pour des raisons d'espace au tableau. Et il s'agit donc de calculer la dérivée des fonctions qui sont là. Je vais le dessiner en rouge. Ici, je vais voir que la dérivée est constante. Les signes du diagramme, enfin les signes de la dérivée qui est indiqué ici, me donnent les signes du diagramme du moment, pardon, de l'effort tranchant. Je le dessine de ces côtés pour éviter de le confondre avec celui du moment fléchissant. Donc en rouge, vous avez les efforts tranchants et en bleu, les moments fléchissants. L'effort tranchant est par ailleurs nul sur toute la traverse de la poutre parce que la dérivée est zéro pour ce qui est du moment fléchissant. Donc là, il n'y a pas d'effort tranchant. Ensuite, comme on avait annoncé, sa valeur sur la branche GB doit être égale et opposée à la valeur sur la branche AJ. Notamment, si vous procédez à calculer la dérivée de cette fonction linéaire, il faut diviser MJB sur H par B, et donc on obtient MJ sur H, qui est exactement la valeur qu'on a ici. Donc, je le dessine là, toujours pour la même raison de ne pas mélanger les deux diagrammes. La valeur est la même, MJ sur H, et l'allure, comme indiqué par la forme du diagramme du moment, et celle-ci, enfin l'allure, le signe, pardon. L'allure est une fonction constante. Diagramme de l'effort tranchant dans la zone qui est là, on voit que le moment passe d'une valeur maximale négative à zéro et ensuite jusqu'à là à une valeur positive. L'effort tranchant est donc dirigé dans le sens habituellement pris comme positif et en tout cas les flèches résultent de l'allure de la courbe. Et je reporte sa valeur ici. Qui est donnée par QDC sur 2, qui est la valeur max, divisée par C, donc c'est QD sur 2. Ensuite, l'effort tranchant, donc la dérivée de la parabole, est une fonction linéaire. D'ailleurs, sa dérivée est moins Q, donc ça passe par 0 au milieu. Et ça reprend la valeur QD sur 2 de l'autre côté pour continuer ensuite constant. Ici, les flèches qui montrent les signes de l'effort tranchant. Voici donc en rouge les diagrammes de l'effort tranchant pour cette structure. Je n'ai pas une troisième couleur pour indiquer les diagrammes de l'effort normal. Ce diagramme est nul sur toute la partie de droite de la structure du fait de l'existence de la glissière qui annule. En fait, il n'y a aucune réaction horizontale ici. Et puisqu'il n'y a aucune charge horizontale appliquée, il n'y a aucun effort normal sur toute la partie G, E, D, C de la structure. Et seulement cet effort peut se présenter en correspondance du portique. Alors, on peut constater que le diagramme de l'effort tranchant est constant sur la traverse. Et donc, cela signifie qu'il n'y a pas d'effort verticaux qui se présente au niveau d'une J ou d'une B, parce que sinon ces efforts auraient généré une variation de la dérivée du diagramme de moment, donc auraient généré un effort tranchant variable. Donc, le seul effort normal qui se présente sur la traverse, et on le voit tout de suite par l'équilibre tant d'une J qu'est d'une G. Donc je dessine ici, par exemple, une J, dans laquelle j'ai à gauche un effort qui vaut MJ sur H. Je n'ai aucun effort normal, on vient de dire que l'effort normal est zéro sur cet axe. Il n'y a aucun effort tranchant, il n'y a aucun effort tranchant sur la partie de la traverse du nœud, donc ça c'est une J. Et il reste juste un effort normal qui doit s'opposer. Ça, c'est J, N sur J, G, qui doit s'opposer à l'effort en question. Donc, on voit qu'il s'agit d'un effort normal de compression. Donc, la traverse est comprimée et la valeur de l'effort normal de compression est exactement M, J sur H. Donc, je répète, je ne dessine pas l'effort sur le diagramme, mais c'est assez évident. Il s'agit d'un effort uniforme sur la traverse JG, des valeurs MJ sur H, et c'est un effort de compression. Voilà donc pour ce qui est de la deuxième partie de l'exercice, on a compléter les calculs des diagrammes. Et, il nous reste à calculer les réactions et puis à valider la valeur de MJ que j'avais annoncée. Alors, pour les calculs des réactions, les diagrammes de l'effort tranchant et du moment fléchissant nous permettent de tout déduire. Donc, on voit bien que ici, l'effort tranchant est dirigé comme ça. On a donc ici une réaction horizontale qui vaut MJ sur H. Ici, le diagramme est dirigé dans les sens opposés et nous avons ici la réaction horizontale égale et opposée MJ sur H. Et au niveau de la glissière J, C, je vais avoir un moment appliqué par la glissière sur la poutre qui, d'un point de vue mnémotique, on peut dessiner comme sortant du diagramme. Sa valeur est la même que la valeur du diagramme. Un effort vertical qui est le même que l'effort tranchant au point D, parce que cet effort est partout QD sur 2. On a ici sa direction, donc la valeur c'est QD sur 2. Et la même chose se produit ici, où nous avons cet effort tranchant dirigé vers le haut, qui devient donc ici une réaction QD sur 2. Donc en noir, toutes les réactions en jeu, bien sûr aucune réaction horizontale ici. Ici nous avons réaction verticale et horizontale, et là nous avons seulement la réaction horizontale et aucune réaction verticale. Je vais reprendre pour calculer les moments au point J et valider ce résultat. La procédure est la même qu'on a déjà appliquée plusieurs fois. On va insérer une rotule fictive au point J et un moment inconnu qui est effectivement le moment MJ. L'objet, le système, à cause de l'ajout de cette rotule, est devenu un mécanisme. Donc le premier passage consiste à identifier la cinématique de ce mécanisme et le deuxième sera celui du calcul du travail virtuel de toutes les forces en jeu, sachant que les seules forces en jeu sont MJ, force généralisée, c'est un moment en effet, et Q qui est une force distribuée. Et donc on aura une équation qui relie MJ à Q, qui est le calcul de MJ en question. Alors, les centres de rotation, on les avait déjà analysés précédemment. On recommence par les points A, sur lesquels se trouve le centre de rotation du corps numéro 1, celui-ci, corps numéro 2, corps 3, corps 4 et corps 5. Donc le centre de rotation C1 se trouve sous la rotule A. Ici, nous avons le centre de rotation relative C1-2 qui coïncide avec les points J. Pour ce qui est de C2-3, il doit se trouver à l'infini dans la direction horizontale. Le centre de rotation du corps numéro 3 coïncide avec B. Centre de rotation relative 3-4. Centre de rotation relative 4-5, centre de rotation absolu du corps numéro 5 est à l'infini de la direction verticale. Donc comme tout à l'heure, pour que le mouvement soit possible, le corps numéro 5 doit avoir son centre de rotation absolu qui se trouve sur la verticale qui passe par D, parce que c'est ça qui est la condition de Kennedy d'alignement. Donc on aura sur cette ligne-là, on trouvera C5. Et ces points doivent être aussi alignés avec, on trouvera C4. Et C4 doit aussi être aligné avec C3 et C3-4, toujours par le théorème de Kennedy. Donc il se trouve à la jonction de ces deux lignes, c'est-à-dire là, effectivement C4 est cette fois-ci matérialisé parce que le mouvement du corps 3, cette fois-ci, il est possible. Notamment, on voit que pour que le mouvement du corps 3 soit possible, il va falloir, pour que le mouvement du corps 2 soit possible, il faut que le centre de rotation du corps 2 soit à la fois aligné avec C1, C1-2, Et donc, il doit se trouver sous cet axe. Et puis, il faut qu'il soit aligné avec ces deux trois qui est à l'infini en direction horizontale et ces trois qui est ici. Et donc, il doit se trouver sous cet axe. Les deux conditions sont remplies si ces deux se trouvent à l'intersection des deux axes. On a donc tous les centres placés, C1, C2, C1-2, C2-3, C3, C3-4, C4, C4-5 et C5. Tous les centres ont un lieu. Le mouvement est donc possible en respectant les centres en question. On va pouvoir le dessiner. Je dessine d'abord les projections verticales du mouvement en tirant un repère horizontal. Donc ici, je vois la position du centre C1 qui coïncide avec celle du centre C2 et du centre C1-2, évidemment. Donc cela signifie qu'en fait, dans ce dessin, on ne verra pas le mouvement du corps numéro 1. On voit par contre le mouvement du corps numéro 2, que je peux dessiner comme ça, jusqu'à que ce corps numéro 2 se projette, c'est-à-dire jusqu'à là. J'appelle cet angle arbitraire alpha chapeau, et ceci représente le corps numéro 2 déplacé. Pour ce qui est du corps numéro 3, il doit respecter le parallélisme avec le corps numéro 2 imposé par la présence d'un centre de rotation à l'infini. C'est-à-dire que le mouvement du corps numéro 3, dont le centre de rotation absolu se projette ici, se font sur un angle qui est le même. Donc ça, c'est toujours alpha chapeau de part et d'autre. Et ici, nous avons donc le corps numéro 3 déplacé. Nous avons ici les centres C3-4 déplacés. Les centres C4 se projettent là. Et donc, nous avons là le mouvement du corps numéro 4. Et pour ce qui est du mouvement du corps numéro 5, puisque son centre de rotation se projette ici, quand on les joint avec C4-5 qui se projette aussi ici, on voit que le corps numéro 5 ne bouge pas et ceci est le mouvement du corps numéro 4. Nous avons donc ici tous les mouvements de ces 5 corps, les composantes verticales du mouvement de ces 5 corps qui sont représentés. Puisque le corps numéro 1 se projette en ces points, on ne voit pas son mouvement, on ne voit notamment pas sa rotation. On est donc obligé de représenter aussi les composantes horizontales du mouvement. On va le faire là. Je dois déplacer la note que j'avais prise ici parce que ça me prend de la place. Alors voilà mon repère vertical. Je projette la position du point C1 qui est ici. Ce point est fixe. Et la position du point C2, qui est à peu près à, enfin, ce n'est pas un mi-chemin, mais c'est à la hauteur de ce point-là, donc c'est là. Ça, c'est C2 secondes. Alors, on a dit que le corps numéro 2 tourne dans l'angle alpha. Je peux dessiner ici les mouvements du corps numéro 2, qui en fait n'est pas visible. Il s'est identifié que ce point-là, cet angle, est un angle alpha. Nous avons ensuite, donc ceci fait que la position du point C1-2 est ici. Donc ça c'est tout le corps numéro 2 qui est représenté par ces points. Et donc nous avons la rotation du corps numéro 1 qui est représentée par cet angle que j'appelle bêta chapeau. Je n'ai pas besoin de représenter d'autres mouvements du système parce que tout ce que j'avais besoin de connaître était la rotation du pied droit, donc cet axe AJ qui tourne de l'angle bêta chapeau. Je dois simplement calculer la valeur de bêta chapeau. Alors je rappelle que ceci vaut B et ceci vaut H. On a donc l'identité que bêta fois H est égal à alpha fois B et donc je peux écrire que bêta est égal à alpha multiplié par B et divisé par H. Je n'ai pas besoin d'autres informations, comme je disais. Et je peux donc calculer les travails virtuels de toutes les forces, dans ces cas forces distribuées et moments en jeu. Alors, je commence par le moment MJ qui agit sur la poutre AJ, la poutre numéro 1, on avait dit, et cette poutre tourne dans l'angle bêta, l'angle il est horaire, le moment anti-horaire, donc on a un signe moins MJ, et bêta, on a dit que je l'exprime en fonction de alpha en écrivant B sur H fois alpha chapeau. Ensuite, j'ai le mouvement du corps numéro 2. Ce mouvement est horaire comme le moment, donc c'est un travail positif. Le moment est le même moment MJ et le mouvement, on a dit que ça vaut alpha. Et puis nous avons le travail fait par la force Q qui est donné par la valeur de la force multipliée par cette surface. Cette surface vaut D au carré divisé par 2 et multiplié par cet angle que je vais appeler gamma chapeau. Pour identifier la valeur de gamma chapeau en fonction de la valeur de alpha chapeau, il suffit que je vois ici ces deux triangles. Je vois que C fois alpha est égal à D fois gamma, donc je peux dire que gamma est égal à alpha multiplié par C et divisé par D. En conclusion, donc, je peux mettre ici la valeur du travail fait par Q, qui est un travail positif. C'est Q D carré sur 2, multiplié par l'angle gamma, et donc par C divisé par D, alpha chapeau. Voilà, ceci doit être égal à 0, quel que soit alpha chapeau, ce qui me permet de déduire pour la valeur de MJ, MJ égale, ici, j'ai Q D C sur 2, et je dois diviser par, donc j'ai un signe moins, et je divise par 1 moins B sur H, 1 moins B sur H, qui est un nombre plus petit que l'unité compte tenu du dessin, donc ceci est un moment négatif, ce qui correspond bien au diagramme qu'on avait tracé, parce que les moments qu'on a pris ici, conventionnellement positif, est un moment qui tire sur les fibres inférieures de la poutre et les fibres de droite du montant. Et les moments qu'on avait dessinés lors de la solution étaient un moment reporté de l'autre côté, donc qui tirait sur les fibres extérieures du montant, les fibres de gauche du montant, et les fibres supérieures de la poutre. Donc le signe est correct. Et pour ce qui est de la valeur calculée, elle est correcte aussi. Bon, la valeur qu'on avait calculée précédemment, je la réécris ici. C'était MJ égale Q DCH divisé par 2 fois H moins B. On voit que c'est la même chose. Il suffit de diviser par H pour avoir le même résultat. Le signe, comme je vous disais, qui apparaît ici comme un signe négatif parce qu'il est lié à la convention que se donnait, il est cohérent avec la valeur qu'on avait trouvée, dont j'avais pris note tout à l'heure, sans reporter les signes, parce que c'était une valeur qui venait d'un diagramme dont les signes étaient incorporés dans le dessin. Et le diagramme étant toujours dessiné du côté des fibres tendues. Donc les deux résultats sont cohérents, ce qui conforte le résultat précédent, bien entendu.